J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'émission Aléa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'apparition d'un genre d'homme étrange, d'une espèce humaine jeune et singulière qui est née au début du XXe siècle et qu'on appelle l'Homo ludens. Homo ludens, en deux mots donc, homo comme homme et ludens comme ludus, le jeu. Cet homo ludens est un peu le fil rouge de l'émission. Il se cache un peu partout, cet homme énigmatique, et on essayera ensemble de le retrouver. C'est un jeu philosophique que je vous propose aujourd'hui, un jeu à écouter, un jeu de langage, un jeu de recherche où on va essayer de s'y retrouver. Alors qui se cache derrière cet homo ludens? Premier indice, il ne s'agit pas d'un cousin éloigné de l'homo sapiens, ni d'une quelconque autre branche de l'homo erectus perdue au fin fond du paléolithique. Non, l'homo ludens est autre chose. Ce n'est pas une autre histoire de l'homme, c'est en fait une autre dimension de l'homme. L'homo ludens, c'est une partie de l'homme actuel, une abstraction que l'on a faite de l'homme contemporain. C'est, pour être très précisément vague, une partie de nous, une partie de notre vie, dans la totalité des choses que nous faisons quotidiennement et sur lesquelles on essaye de se concentrer, ici, maintenant, pour comprendre la façon dont nous avons d'aborder le jeu dans notre vie courante, ou plutôt, notre tendance à vivre certains moments de nos vies dans le jeu. L'homo ludens, c'est donc regarder la vie humaine à travers le filtre du jeu. Tout le reste, tout ce qui n'est pas lié à un aspect ludique de la vie humaine, on le met de côté, on le laisse en suspens, pour un moment. Et on se concentre uniquement, pour un instant, sur notre rapport au jeu. C'est exactement ça l'homo ludens, une abstraction de l'homme qui joue, et une interrogation philosophique tout à fait sérieuse sur cet homme joueur. Pourquoi joue-t-il? Qu'éprouve-t-il face au jeu? Pourquoi veut-il gagner à tout prix? Est-ce qu'il aime la compétition? Est-ce qu'il aime jouer en équipe? Comment fait-il pour se positionner dans une compétition et dans le jeu? Est-ce qu'il respecte les règles? Et comment fait-il pour développer une stratégie pour aller jusqu'au bout du jeu? Toutes ces questions sur le monde du jeu et sur notre rapport au jeu sont des questions récentes dans l'histoire de la pensée. Elles ont émergé en fait au XXe siècle dans une philosophie qui a pris le jeu au sérieux. Pour être très exact, il nous a fallu attendre 1938 pour voir naître l'homo ludens. Alors que s'est-il passé en 1938 et pourquoi attendre si tard pour voir émerger cette première étude sérieuse sur le jeu? 1938, c'est la date à laquelle sort pour la première fois ce livre qui a l'origine de la philosophie contemporaine du jeu et qui s'intitule « Homo ludens ». Et on le doit à un philosophe, ou plus exactement à un historien de la culture, un historien néerlandais qui s'appelle Johan Huizinga. Donc, 1938, pourquoi si tard? Pourquoi a-t-il fallu attendre le XXe siècle pour qu'une étude du monde du jeu digne de ce nom puisse voir le jour? Eh bien tout simplement parce que le jeu n'a jamais été considéré comme un objet d'étude sérieux. Parce que s'il y a bien une chose qu'on suppose des jeux, c'est qu'ils n'ont rien de sérieux. J'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois dans cette émission sur cette image dépréciée du jeu, sur ce poncif qui fait du jeu une activité inutile, une activité futile, opposée au sérieux de la vie, comme une activité qui ne produit rien et qui par conséquent ne sert à rien. Ce préjugé est lourdement ancré dans notre culture occidentale et dans la philosophie classique. On en trouve à plusieurs endroits dans notre héritage philosophique cette idée que, comme le disait Herbert Spencer, le père du darwinisme social, je le cite, « le jeu est seulement un moyen d'employer l'énergie superflue, une sorte de soupape de la jeunesse ». Fin de citation. Si on se met dans la tête de Spencer, on s'imagine bien les jeunes se courir après dans les jeux de plein air, comme l'épervier, ou se passer le ballon, comme au football ou au ballon prisonnier. Des endroits où l'on peut se défouler et laisser comme ça le trop-plein d'énergie accumulée dans la journée s'épuiser naturellement dans un jeu. C'est une image un peu restreinte du jeu, qu'on retrouve aussi, par exemple, chez le philosophe français Alain, qui opposait la futilité du jeu, qui appartient à la jeunesse, au sérieux utile de la vie, qui appartient à celui qui a atteint l'âge adulte. Donc le jeu, c'est futile par rapport au reste de notre vie qui est utile. Le jeu est habituellement mauvaise presse en philosophie. Et le but de l'homo ludens, de l'étude de l'homme qui joue, est de retourner en quelque sorte ce cliché. Alors non pas pour faire du jeu quelque chose d'utile nécessairement, mais pour comprendre que le jeu est un moment de parenthèse dans la routine quotidienne qui a son intérêt dans nos vies. L'homo ludens est une recherche que nous faisons. Une recherche dont le but est de penser le jeu tout en se regardant penser le jeu. Eh bien c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre d'abord un peu le contour et les limites qui nous permettent de définir ce qu'est le jeu. Qu'est-ce qu'un jeu? Comment on entre dans le jeu? Quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on peut ressentir lorsqu'on joue? Et puis, tout en se posant ces questions, on va en même temps essayer de voir ce qui est proprement philosophique dans cette approche. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on aborde un sujet tel que le jeu dans une perspective philosophique? C'est ce qu'on appelle une approche réflexive. Pendant qu'on fait quelque chose, on réfléchit en même temps sur ce qu'on est en train de faire. Il y a donc une double enquête. D'abord, essayer de conceptualiser le jeu, et puis en même temps, essayer de comprendre ce qu'est une approche philosophique d'un objet. Et c'est exactement ça la ludosophie, une étude philosophique du jeu et une certaine compréhension, une certaine révélation de ce que peut être la philosophie à travers cette étude du jeu. Voir à travers l'étude du champ ludique à la fois ce qu'est la spécificité du questionnement philosophique et approfondir en même temps l'analyse philosophique du jeu elle-même. On se croirait ici peut-être tourner en rond, mais en réalité cette redondance est volontaire. On ne fait simplement que revenir sur nos pas pour comprendre le chemin que l'on a parcouru. Mais bon. Si je dois être tout à fait honnête, je dois aussi vous avouer qu'on est aussi ici en train de jouer avec les mots. Parce que tourner en rond, c'est aussi se perdre, simplement pour s'amuser. C'est un jeu de langage, mais attention, c'est un jeu sérieux. C'est-à-dire un jeu qui ne se prend pas au sérieux.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.